10h39, vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1. Moins 5 degrés sur Québec, c'est de la neige sur Québec. À certains endroits, c'est pas super bien déneigé, c'est extrêmement glissant. Faites attention sur la route. Entre 2 et 4 cm annoncés pour ce qui est d'aujourd'hui. Ce soir, voyez-vous, on parle aussi d'averses de neige, mais il n'y a pas de centimètres annoncés. Donc, ça devrait embarquer dans justement ce fameux 4 cm. Minimum de moins 11 pour ce soir. Mercredi, généralement nuageux, avec un maximum de moins 6. S'il se passe quoi que ce soit sur la route, 418-971-102.
C'est rare qu'on ait de la circulation à cette heure. Mais ça a été vraiment difficile ce matin. Peut-être commencer par la 20 ouest entre l'avenue Taniata puis l'avenue des Églises. La voie de droite qui est partiellement entravée en ce moment. Il y a une panne de ce côté-là. Les policiers qui sont arrivés, ça ralentit quand même pas mal. Également sur la capitale, direction est, il y a quelques ralentissements, je vous dirais, à la hauteur de Robert Bourassa. Ouest, ça se passe à la hauteur de Laurentienne. Quoi que ce soit d'autre, vous n'hésitez pas, ça passe par texto.
C'est le mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. D'ici 2050, le nombre de Québécois qui vivent avec un trouble neurocognitif comme l'Alzheimer pourrait dépasser 360 000. Donc, c'est plus du double qu'actuellement. On a le plaisir de recevoir avec nous Dr Sylvie Belleville, qui est experte en neuropsychologie du vieillissement cognitif et coprésidente du comité scientifique Lucilab sur l'Alzheimer. Dr Belleville, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. L'Alzheimer, c'est une cause qui vous tenait à cœur. Est-ce qu'il y avait quelqu'un dans votre famille qui a fait en sorte que vous vous êtes dit « ben moi, j'aimerais travailler dans ce domaine-là »
Ah, oh, c'est une bonne question. Oui, effectivement, mon père n'a pas eu l'Alzheimer, mais il a eu ce qu'on appelle un trouble neurocognitif vasculaire, c'est-à-dire qu'il a eu des troubles cognitifs assez jeunes, très, très jeunes. Moi, j'avais 15 ans et ça m'a beaucoup perturbée, ça m'a beaucoup attristée. Puis on ne savait pas trop, ça fait longtemps, hein? Je veux dire, pas dire mon âge, mais on ne savait pas trop quoi faire à l'époque, hein? Les familles étaient laissées un peu à eux-mêmes et puis... Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Et après, je suis allée dans le domaine de la cognition, des neurosciences, du cerveau. Et, après, et quand j'ai commencé après mon doctorat à travailler comme neuropsychologue à l'Institut de gériatrie de Montréal, ben, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient des premiers symptômes de maladie d'Alzheimer. C'était beaucoup ça, ma pratique clinique. Alors, c'est quelque chose qui m'a intéressée très tôt et je suis contente de continuer à contribuer à leur qualité de vie.
Quand on était jeune, les gens qui étaient condamnés à l'Alzheimer, il n'y avait pas d'espoir. J'ai l'impression que c'était une mort très, très rapide. Là, il y a eu beaucoup de recherches qui s'est fait avec les décennies qui ont passé. Puis aujourd'hui, on en sait beaucoup plus sur l'Alzheimer. Commençons par le départ. Comment ça débute, l'Alzheimer? Pourquoi ça arrive dans notre vie? Qu'est-ce qui fait en sorte que... on a attrapé ça? Est-ce qu'on l'attrape ou on l'a déjà à la naissance? Y a-t-il des choses qu'on peut faire pour repousser ça le plus loin possible?
Ben, c'est beaucoup de questions que vous me posez là.
Même moi, je suis en train de me perdre, le docteur Belleville.
C'est les grandes questions que les chercheurs se posent.
Ouais.
C'est sûr que si on savait qu'est-ce qui cause l'Alzheimer, on aurait probablement le médicament pour le guérir. Parce que pour guérir une maladie, il faut connaître sa cause. C'est la première chose qu'il faut faire. Donc, actuellement, les chercheurs, ils ont plein d'hypothèses. Ils cherchent à différents niveaux. Puis, c'est pour ça qu'on commence un petit peu à avoir des réponses pour cette maladie-là, parce qu'on la comprend mieux. Je dirais qu'il y a 40 ans, 30 ans, les gens ne s'intéressaient pas à la maladie. Ça fait longtemps qu'on la connaît.
Ouais.
Ça fait longtemps qu'on l'a identifiée. Mais c'était comme si c'était quelque chose. Oh, ben, c'est les personnes âgées, puis c'est normal avec l'âge. Maintenant, on réalise que ce n'est pas du tout normal d'avoir cette maladie. C'est une maladie déjà, ce n'est pas du vieillissement normal. Et puis les personnes qui ont 75, 80 sont encore maintenant, on en voit à nos parents, tout ça, très en forme. Fait qu'ils veulent continuer à profiter de la vie, puis leurs enfants, petits-enfants veulent continuer à profiter d'eux. Alors, qu'est-ce que c'est que cette maladie? D'abord, ce qu'on sait, c'est que dans le cerveau de certaines personnes, il y a une accumulation de protéines anormales. Protéines amyloïdes qui est à l'extérieur des neurones, les neurones, c'est les cellules du cerveau, et la protéine tau qui s'accumule à l'intérieur du neurone. Puis, bon, ces protéines-là sont là normalement, hein, on a plein de protéines dans notre cerveau, mais c'est comme si là, elles devenaient dysfonctionnelles, puis elles s'accumulaient, et ça empêche les cellules de bien fonctionner. Ça empêche les cellules du cerveau de bien communiquer les unes avec les autres et ça va éventuellement causer une mort neuronale. Donc, les cellules vont mourir, le cerveau va perdre du poids, puis on va perdre des cellules. Puis ça va, okay, c'est très graduel. Maintenant, on sait que cette maladie-là, les changements qu'on observe commencent probablement 20-30 ans avant le moment où la personne elle a un diagnostic actuellement.
Est-ce que
Donc, si les
c'est
gens
génétique?
ont... en fait, question encore un peu compliquée. Il y a une très, très petite portion, à peu près moins de 5 % où c'est clairement génétique. Donc, si on a le gène, on est sûr qu'on va l'avoir. Mais ça, c'est la minorité. La plupart, c'est ce qu'on appelle des cas sporadiques. C'est-à-dire que c'est des gens, il y a probablement une susceptibilité génétique. On a identifié plusieurs gènes associés à cette maladie-là. Donc, si vous avez les gènes, vous avez comme un peu plus de risque de l'avoir, mais ce n'est pas nécessairement le cas que vous l'aurez. Donc, on voit qu'il y a probablement une maladie qui a une combinaison de susceptibilité génétique et aussi des facteurs environnementaux, des facteurs liés au style de vie. Et ça, c'est une notion récente qui est très excitante parce que s'il y a des facteurs liés au style de vie qui nous permettent de bloquer la maladie ou alors de reporter le moment où elle a ses effets les plus dévastateurs, ben on va avoir un impact majeur au niveau du nombre de cas mondiaux.
C'est une drôle de question parce qu'on dirait qu'on sait c'est quoi, en fait, l'Alzheimer, là. Tout le monde se dit, on oublie tout, là. Mais j'ai l'impression que c'est pas juste le fait d'oublier tes clés, là. Comment ça se traduit au quotidien? C'est à peu près le même processus pour toute personne qui l'a?
Ben, non, il y a une certaine variabilité, mais le profil est assez, je dirais, similaire. C'est-à-dire que, bon, j'ai dit tout à l'heure, elle commence 20-30 ans avant probablement au niveau neurologique du cerveau. Donc, pendant ce temps-là, on n'aura pas de signes, on n'aura pas de symptômes. Il y aura toute une phase qu'on appelle silencieuse, où la maladie se développe quand même, hein. Et puis, à un moment donné, la personne va commencer à avoir des problèmes qui vont l'inquiéter. Ça peut ressembler à ce que vous et moi, on vit, c'est-à-dire qu'on a des petits oublis, puis c'est surtout au niveau des oublis ou alors des problèmes d'attention. Et un moment, puis c'est graduel, hein, les choses vont se devenir de plus en plus sévères au fur et à mesure que la maladie augmente sa sévérité, au fur et à mesure que le cerveau est atteint, au bout du compte. Et à un moment donné, ben, les gens vont réaliser qu'ils ont des problèmes de mémoire qui vont au-delà de ce qu'ils observent autour d'eux, au-delà de ce que ma sœur du même âge a, au-delà de ce que... parce que c'est normal d'avoir un peu de problèmes de mémoire quand on est très occupé, comme vous, ou alors quand on est plus âgé. Donc, ces gens-là pourraient avoir des difficultés, par exemple, à se souvenir d'une conversation qu'ils ont eue la veille, ou des difficultés, une erreur importante au niveau de la gestion de leur budget. Donc, ce n'est pas juste des petits oublis comme on a tous et chacun, avoir des difficultés de se souvenir du nom d'une personne. Tout le monde a des problèmes, même quand on est jeune. Plus trop savoir où on a stationné notre voiture, c'est aussi très fréquent. Mais ce sont des gens qui vont avoir des difficultés qui vont commencer à avoir un impact dans leur vie,
Je
puis qui
comprends.
vont se répéter,
Je comprends,
puis qui
Madame,
vont
Docteur Belleville, j'ai un exemple. J'avais reçu Sandra de Montigny, qui
Oui.
est atteinte de l'Alzheimer précoce. Elle, son père est décédé de la maladie de l'Alzheimer. Puis à un moment donné, bon, elle avait des petits oublis, comme vous nous parlez, qui n'étaient pas nécessairement graves. Donc, oublier quelque chose, oublier où elle a stationné son véhicule. Mais une fois, elle est rentrée à la maison, Audrey, puis elle a vu une paire de chaussures qui était dans le bas des marches, puis son conjoint était à l'intérieur de la maison. Et elle a dit à son conjoint, elle l'a appelé deux, trois fois, elle a dit: À qui sont ces chaussures? Et son conjoint de lui dire: Mais chérie, c'est tes chaussures neuves que tu as achetées hier. Et elle ne se souvenait pas du tout de ça,
Ah.
continuait de dire à son conjoint: Tu me mens, tu me trompes, quelque chose du genre. Et là, le conjoint dit: Ouais, mais là, Sandra, appelle ta fille, elle va te le dire, elle est allée magasiner avec toi. Et Sandra a dû appeler sa fille pour dire: C'est à qui ces chaussures-là? Puis elle a dit: Mais maman, c'est tes chaussures, on est allé magasiner ensemble hier.
Ah, c'est
Et à
crève-cœur.
partir de ce moment-là, elle a dit: Attends un peu, là, mon père avait l'Alzheimer, il a décédé de ça, est allé à l'hôpital, ils ont vérifié, puis effectivement, diagnostic d'Alzheimer précoce.
Voilà. Et ça, c'est ça. Des fois, c'est un événement comme ça qui nous paraît hors du commun,
Ben
un peu hors de la moyenne de ce qu'on vit normalement, des petits oublis habituels. Et ça va nous inquiéter. On va consulter. Attention, on peut avoir un événement comme ça pour d'autres raisons, hein? C'est pour ça que c'est important de consulter parce que le diagnostic va être donné quand on a des problèmes, mais aussi quand il n'y a pas d'autres causes qui expliquent ces problèmes-là. Donc ça, c'est important. Est-ce qu'il y a un problème par exemple, de sommeil, d'apnée du sommeil? Est-ce qu'il y a un problème, peut-être même quelque chose de plus inquiétant au niveau cérébral, une petite tumeur, des choses comme ça? Donc c'est important d'aller consulter quand on a un problème de mémoire parce que ce n'est pas nécessairement un Alzheimer.
Est-ce qu'on doit toujours utiliser notre cerveau, que ce soit, bon, au travail, c'est normal d'utiliser notre cerveau, mais des fois, à la maison, on regarde la télé, puis, bon, on l'écoute pratiquement pas, on est comme un peu figé, puis il y en a qui ont ça comme mode de vie, c'est qu'ils écoutent toujours la télé sans nécessairement réfléchir de ce qui se passe autour d'eux. Est-ce que ces gens-là peuvent être plus susceptibles que quelqu'un qui, je sais pas, moi, Audrey, à 30 ans, dit, ben, moi, j'ai le goût de faire travailler mon cerveau, je deviens cruciverbiste, je fais des mots croisés, j'apprends des nouvelles affaires, je m'inscris à tel cours, tel cours. Est-ce qu'on peut se préserver longtemps de cette
Oui.
maladie-là?
Ben ça, c'est une des grandes découvertes des dernières années. Ça a été de montrer que, il y a une grande partie des cas qui peuvent être modifiables. On sait qu'il y a des facteurs qui sont des cas qui peuvent être prévenus grâce justement à un certain nombre de facteurs modifiables, comme celui-là. Le fait d'avoir un cerveau, d'être stimulé intellectuellement. Ce qu'on sait que c'est que les gens qui sont stimulés intellectuellement tout au long de leur vie, ils ont moins de risques de développer un Alzheimer. Alors, il y a deux choses. D'une part, ils ont moins de risques de développer l'Alzheimer, mais même quand ils l'ont dans leur cerveau, ils le combattent.
Oh,
Donc,
OK.
oui, c'est ce qu'on appelle la réserve cognitive, c'est-à-dire que ce n'est pas juste qu'on empêche la maladie d'arriver, mais on est capable de faire en sorte que même si elle est là, il y a probablement des réseaux neuronaux qui vont compenser. On ne comprend pas bien encore, et ça, on travaille là-dessus, les chercheurs, mais il y a des études qui ont montré que certaines personnes avaient, lors de leur décès, on pouvait aller voir leur cerveau, on voyait qu'il y avait la pathologie Alzheimer dans leur cerveau, mais en fait, ils n'avaient aucun symptôme de leur vivant. Et ces gens-là, ce n'est pas n'importe qui. C'est des gens qui étaient stimulés intellectuellement, entourés socialement, physiquement actifs. Donc, et tout ça a déclenché cet intérêt pour la prévention et les facteurs de risque modifiables.
Docteur Belleville, est-ce que notre alimentation peut avoir un impact dans la maladie d'Alzheimer?
Oui, beaucoup d'études qui ont montré que, une alimentation de type méditerranéenne était associée à un moindre risque, de maladie d'Alzheimer. Donc, c'est bien. Ce qui est bon pour le cœur est bon pour le cerveau. Ça, c'est bon parce qu'on n'a pas besoin de choisir. Donc, si on a une alimentation qui est équilibré. Si on suit, par exemple, le guide alimentaire canadien est très, très bien par rapport à ça, mais il y a même des régimes alimentaires qui vont un peu axer sur les aliments qu'on connaît qui sont bons pour les cerveaux, mais qui sont aussi souvent des aliments bons pour le cœur.
Mais j'imagine qu'à la base de manger des aliments non transformés, de manger des légumes, des protéines, tout ce qu'on connaît déjà sur la santé, ça doit aider, étant donné que ça aide déjà au niveau physique en partant, là.
Exactement.
On a parlé du fait de se stimuler intellectuellement, de l'alimentation. Y a-t-il d'autres facteurs qui peuvent améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d'Alzheimer?
L'activité physique, en fait, là, il y a deux éléments, parce que vous venez de dire de la qualité de vie des personnes avec un Alzheimer. Il y a deux éléments. Il y a d'une part les facteurs qui nous permettent de réduire le risque, hein, donc de repousser le moment où on a la maladie, où on va développer la maladie, ou même peut-être d'empêcher totalement son apparition. Mais ces facteurs-là, ils sont importants aussi pour les personnes qui ont déjà la maladie. Parce que vous venez de dire, est-ce que ça peut augmenter aussi la qualité de vie des personnes avec un Alzheimer? Avoir rester stimulé, avoir des liens sociaux, avoir nos proches encore qui viennent nous voir, faire de l'activité physique, c'est bon aussi pour les personnes qui ont le diagnostic. Mais au niveau de la prévention, puisque là, on parle un petit peu plus de la prévention, il y a, en fait, Actuellement, on identifie une douzaine, une quinzaine de facteurs qui sont susceptibles quand de prévenir ou de repousser le moment où on a l'Alzheimer. Il y en a beaucoup. Donc, c'est bien ça parce que ça veut dire qu'on peut travailler à plus qu'un niveau. Donc, il y a l'activité physique. Activité, je dirais ceux qu'on connaît le plus, activité physique, nutrition. Activité cognitivement stimulante, ça, c'est des facteurs importants. Facteurs de risque vasculaire, si vous faites de l'hypertension, si vous avez du diabète, on peut contrôler ça. Le cholestérol, très important. Le sommeil, donc avoir un bon sommeil. On sait qu'il y a plein de raisons. Par exemple, l'apnée du sommeil est très mauvais pour le cerveau. Ça contribue à fragiliser notre cerveau. Donc, si vous avez des problèmes d'apnée du sommeil, il faut vraiment s'en occuper. On sait aussi que pendant le sommeil, à certaines phases du sommeil, on évacue les protéines amyloïdes. Vous savez, ces protéines qui s'accumulent. Donc, on pense de plus en plus que le sommeil pourrait permettre justement d'évacuer les protéines associées à la maladie d'Alzheimer. Bon, d'être stimulé socialement, d'avoir un réseau. Mais aussi un dernier intéressant là, que je voudrais nommer, c'est vision-audition. Ça, les gens ils pensent pas, mais tu sais, vous avez des problèmes d'audition, là, vous allez vous isoler, vous ferez plus d'activité, vous sortirez moins, etc. Donc ça aussi, c'est un facteur qui a été identifié comme important.
Docteur, les avantages de déceler la maladie le plus rapidement possible à un âge où le patient peut être le plus jeune possible, puis les médicaments maintenant qui sont mis en place en 2025, pouvez-vous nous en parler un peu? Bon, les désavantages de le trouver, de la trouver d'avance, que la maladie d'Alzheimer est là, est en place, versus les médicaments?
Écoutez, je pense que la plupart des. La Fédération québécoise des sociétés Alzheimer, par exemple, insiste sur l'importance du diagnostic précoce parce que si on attend trop, ce n'est pas une bonne idée d'attendre trop parce que ça veut dire que là, tout le monde est fatigué, tout le monde est stressé. Déjà, le proche, si on a un proche aidant, commence à en avoir trop sur le dos. Puis pourtant, là, il faut prendre plein, plein de décisions. Donc, si on fait ça tôt, ça veut dire qu'on peut s'en occuper tôt. On peut s'occuper de ben, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que je vais faire. C'est sûr que ce n'est pas le fun de recevoir c'est terrible de recevoir un diagnostic comme ça, mais on peut au moins s'adapter. Puis aussi, ça permet de mettre en place des stratégies de prévention, justement. Donc, tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est important avant qu'on ait les symptômes,
Ouais.
mais c'est aussi important quand on a des symptômes très légers. Donc, si vous avez on vous dit, vous avez peut-être un trouble neurocognitif léger, on ne sait pas vers où ça va aller. Ben là, vous allez être super motivé à mettre en place des stratégies de prévention. Donc, pour moi, c'est important.
Ouais, puis les médicaments?
Ben, les médicaments, oui, on a maintenant de plus en plus. Ils ne sont pas encore admis au Canada, mais aux États-Unis, ils le sont. On a des médicaments qui permettent d'évacuer l'amyloïde, puis qui ont un petit effet au niveau cognitif. C'est assez compliqué à mettre en place
Ah
parce que les gens qui n'ont pas de facteur de risque vasculaire, il y a des effets secondaires. Mais il y a de plus en plus de médicaments qui sont, je m'excuse du mot en anglais, là, sur le pipeline, c'est-à-dire qui sont en train d'être testés puis qui s'en viennent. Donc, il y a quand même pas mal d'espoir au niveau des médicaments.
Il y a deux questions d'auditeurs qui sont entrées que je trouve intéressantes. Il y a quelqu'un qui nous dit, à partir de quand on est pris au sérieux quand on va consulter? J'ai seulement 31 ans et il y en a eu dans ma famille. J'ai beaucoup de pertes de mémoire qui affectent ma vie quotidiennement. Donc, c'est un stress pour cette personne-là. Est-ce qu'on peut y aller de façon préventive, consulter?
Ben, comment dire, avec notre système de santé actuel, c'est peut-être pas évident là d'aller de façon préventive consulter. Je pense qu'il faut consulter quand on a des problèmes qui nous préoccupent et qui préoccupent notre entourage.
OK. L'autre
C'est sûr
question qui.
qu'à 30 ans, c'est jeune, hein? C'est rarissime à 30 ans, il faut le
OK.
dire.
Bon, c'est bon à savoir ça. Il y a
Oui.
une autre personne qui dit, j'ai lu dans quelques études que la créatine aidait à diminuer la dégénérescence. Vous en pensez quoi?
Ben, pas nécessairement. Je connais pas très bien cette littérature, alors je peux pas vraiment me prononcer là-dessus, là, mais ouais. Quand on regarde des études, faut faire attention. Première chose, il faut que ce soit des études sérieuses, publiées dans des revues scientifiques avec ce qu'on appelle des comités de pairs. Et il faut faire attention à une seule étude, parce qu'une seule étude, quand on fait 100 études sur plein d'affaires, sur la même chose, 100 études, il y en a une qui va sortir. Et donc, c'est pour ça que de plus en plus, les chercheurs vont reposer sur ce qu'on appelle des méta-analyses. Ils vont regarder plusieurs études, mettre ça ensemble. C'est un peu ce que l'étude qui a montré l'importance des facteurs de risque modifiables, mais c'est sur la base de mettre ensemble beaucoup d'études. On repose pas juste sur une étude.
Parlez-moi un peu de Lucilab.
Oui. Alors, écoutez, Lucilab, c'est quelque chose de formidable. C'est une plateforme. En fait, c'était la vision d'André Chagnon parce que sa conjointe est décédée
Ouais.
d'une maladie d'Alzheimer et lui, il avait dit, mais on sait qu'il y a des facteurs de risque sur lesquels on peut agir, puis il faut aider les gens à changer leur style de vie. Et alors, c'est un peu sa vision. Et Lucilab est une plateforme dont la mission, c'est de favoriser la santé cognitive et physique, parce que comme j'ai dit tantôt, hein, on peut agir sur la santé physique et cognitive avec tous ces facteurs modifiables en améliorant les habitudes de vie, mais de façon durable. Donc, pas juste, ah oh, ben là, mois de janvier, je me mets au gym, mais comment on fait pour changer vraiment notre style de vie pour que ce soit intégré, pour que ce soit quelque chose qui reste à long terme. Et donc, le programme phare, si on veut, c'est ce qu'on appelle Lucie. Donc ça, c'est un programme qui permet, c'est numérique, hein, c'est sur un appareil, un téléphone, c'est un appareil mobile et
Ouais.
c'est gratuit. Et ce que ça fait, c'est que ça va dresser le portrait des gens de leur mode de vie et ça va faire des recommandations de changement de comportement en fonction de nos risques. Parce qu'on est, on, t'sais, vous êtes bien actif physiquement, mais peut-être vous mangez pas super bien ou... Donc, on va établir le risque personnel et faire un plan avec un accompagnement personnalisé. Donc, il y a des conseillers qui sont aussi qui font partie de Lucie puis qui vont accompagner les personnes pour les
Ouais.
aider.
Puis vous faites de la recherche au travers de ça avec des études. Je pense que vous êtes en campagne de recrutement, justement.
Oui, tout à fait. Alors, Lucie, ben, on peut déjà aller voir Lucie si ça vous intéresse. Là, on peut aller sur Lucie, pour aller voir un peu peut-être un peu la plateforme, etc. Mais il y a une grande étude qui va commencer très bientôt et qui va. On a déjà fait une étude pour montrer que ça a un impact. Et effectivement, on améliore. Les gens sont capables d'améliorer leur activité physique, leur alimentation, leur stimulation intellectuelle. Mais là, il y a une nouvelle étude qui va commencer, qui s'appelle étude trait d'union lucie.ca. Et on va mesurer encore chez un plus grand échantillon l'effet de Lucilab là, sur le style de vie. Donc, on est très excités. On pense que c'est un service de prévention qui peut être utilisé à grande échelle, qui est très bénéfique pour les personnes.
Pour ceux qui le chercheraient en passant, c'est lucilab.ca ou il y a luciapp aussi.ca pour l'application. Docteur Sylvie Belleville, il y a une question que je me pose pour les proches aidants, pour les gens qui sont autour, en fait, des gens qui ont l'Alzheimer. Comment on peut aider, faciliter la vie? Parce que ça doit être excessivement difficile pour les gens proches, là, mais je me dis, il y a peut-être quelque chose qu'on peut faire.
Oui, bien sûr. Écoutez, je pense qu'il y a des services de soutien pour les personnes proches aidantes. Il y a beaucoup d'intérêt pour essayer de réduire la charge de ces personnes-là. Je pense qu'il faut, mon point de vue, étant donné bon, notre intérêt pour Lucilab, la prévention, etc., il faut qu'ils prennent soin d'eux. Donc, ça, c'est important. Donc, comment, par exemple, elles peuvent amener du plaisir dans leur vie, du plaisir avec leurs proches atteints. Ce qui est très important avec la nouvelle perspective sur la prévention, c'est qu'on commence aussi à déstigmatiser la maladie. La stigmatisation associée à la maladie, elle contribue beaucoup à la détresse des personnes proches aidantes, parce qu'elles n'osent plus sortir, parce que les gens réagissent bizarrement ou réagissent négativement, parce qu'ils trouvent leurs proches étranges. Donc, je pense que comme société, socialement, il faut déstigmatiser la maladie. Et ça va faire un bien immense, à la fois aux personnes atteintes, aux gens qui cherchent un diagnostic et aussi aux proches aidants.
Docteur Sylvie Belleville, experte en neuropsychologie, ça a été un plaisir de vous jaser aujourd'hui. Une fille de Québec, Caroline, c'est le fun.
Oui, Saint-Ville.
Dans le coin.
Salut,
de...
maman.
Oui, elle vous écoute présentement, on la salue. Ça a été un plaisir, je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Merci d'avoir été des nôtres.
Merci à vous.
Merci, au revoir. On parlait d'Alzheimer avec le docteur Sylvie Belleville, qui est experte en neuropsychologie du vieillissement cognitif et coprésidente du comité scientifique de l'UCLAB. C'est pour avoir côtoyé la dame que je te parlais tout à l'heure, qui était venue à peu près trois fois en entrevue avec moi. Elle a appris à 35 ans qu'elle avait l'Alzheimer précoce.
C'est jeune, là.
C'est jeune, mais en même temps, comme docteur Belleville nous a dit, vaut mieux l'apprendre très tôt. Parce que si tu avais un mode de vie qui n'était pas sain, la maladie d'Alzheimer allait progresser plus vite.
Ouais.
Donc là, elle a mis en place très jeune un plan de match pour faire en sorte qu'elle t'offre le plus longtemps possible avant que la maladie d'Alzheimer prenne le dessus.
Oui, parce que c'est quand même 50 % des gens qui ont le diagnostic trop tard. Tu vois, on dirait que moi, ça m'a fait peur. C'est un mythe, dans le fond, parce que je pensais que c'était génétique. Je pensais que si c'était dans ta famille, automatiquement, tu avais des gros, gros risques de l'avoir. Fait que le 5 % est quand même étonnant. Je trouve quasiment que ça fait peur parce que c'est comme si tu étais un peu responsable du développement de cette maladie-là à quelque part. Si tu ne stimules pas assez au quotidien, je veux dire, là. Fait que je trouve ça quand même épeurant. En passant, on a parlé de lucilab.ca, mais il y a un autre site web que j'ai vu à travers. Il y a eu des séries d'articles dans les derniers jours là, sur les avancées, justement, par rapport à l'Alzheimer. Puis on parlait aussi du site web enparlertôt.ca, tout d'un bout, là. Puis c'est des outils aussi pour reconnaître des signes précurseurs, des conseils pour se préparer, mettons, à la consultation médicale, de l'information aussi sur le processus de diagnostic. Donc, si jamais vous avez des doutes, là, allez-y, mon Dieu, consultez.
Un gros merci. Hey, nouvelle de dernière minute, c'est le Canadien de Montréal qui nous apprend ça. C'est une histoire très triste. Heureusement, la personne concernée est toujours en vie. Un joueur d'importance chez le Canadien, de plus en plus important, Émile Hyndman, qui a malheureusement été impliqué hier dans un accident de la route. Mm-hmm. On dit qu'il a été impliqué dans son accident comme étant piéton, donc visiblement, il tentait de traverser la rue. Il a subi une blessure au haut du corps, c'est ce qu'on nous mentionne, et il va être absent pour une durée de 3 à 4 semaines. Donc, ça semble assez sérieux comme blessure. On en saura peut-être un peu plus dans les prochaines minutes ou les prochaines heures. Et anyway, on va couvrir ça pour vous, là, si on a plus de détails. OK, nous, on s'arrête. 11h07. S'il se passe quoi que ce soit sur la route, 418-971-1021.
Il y a encore des troubles si vous êtes sur la 20 direction ouest, là, je vous dirais, entre Chemin des Îles et Taniata. Il y avait une panne tantôt qui semblait s'étirer un peu. Il y a encore des petits résidus de trafic. Évidemment, quoi que ce soit d'autre, vous ne vous gênez pas.
Camille dit, c'est quoi déjà le test que Denis avait fait par rapport à ça? Il disait qu'il avait vu un questionnaire sur l'Alzheimer dans le journal. Ah ouais, Denis s'était posé cette question-là.
Oui, bien, quand tu as eu la série d'articles, je pense que oui, c'est quelque chose qui... En fait, c'est parce que ça fait peur à beaucoup de gens. Hein? Je veux dire, on a toutes peur à un moment donné d'oublier nos proches. Puis je pense que c'est une maladie qui est un peu sournoise parce que toi, au final, tu t'en rends pas tant compte. C'est les autres qui en souffrent plus autour de toi.
Le cas que je t'ai parlé de Sandra, là, elle arrive chez elle, il y a une paire de chaussures
c'est
de
troublant.
Femme... qui est dans le bas des marches, elle est persuadée que son chum la trompe.
Ouais, c'est
son chum dit, chérie, je te jure, je te trompe pas, ce sont tes souliers que tu as achetés hier avec ta fille. Elle a dû appeler sa fille pour confirmer que ses propres souliers qui étaient là, c'était les siens.
Ouais.
Puis là, c'est le choc.
Oui, mais tu sais, vous tapez « test Alzheimer » pour répondre à la question sur Google. Puis oui, le journal en avait fait un, mais il y en a tout plein. Ceci dit, je veux quand même mettre un petit bémol. Il y a possibilité de les retrouver sur Internet facilement, mais vous êtes mieux d'aller consulter directement, jeune médecin?
T'oublies-tu où tu mets tes clés?
Ça m'arrive. Oh, ça m'arrive souvent. Moi, j'oublie où je mets mon char dans le parking quand je me stationne pour aller magasiner.
Au centre d'achat.
Oh oui, là,
tu l'oublies.
Mais moi, je sais que c'est une question d'espace mental, là, de saturation.
Avec... Tu te promènes avec ta clé de char, puis là, tu essaies de faire sonner ton char.
Oui, le pire, c'est que je fais souvent ça.
Il y en a qui font ça. Hein?
Oui.
Moi, là, j'ai. Parce que moi aussi, tu sais, je suis pas super attentif tout le temps. Des fois, je fonctionne sur le mode automatique. Là. L'endroit où je mets les clés, j'ai réglé ça. Toujours à la même place. Quand je vais aux Galeries de la Capitale, je me stationne toujours à la même place.
Dans le même côté de... Oh non, t'as raison.
C'est tout le temps très loin, puis toujours à la même place. Stationnement à job ici, même affaire. Si je me stationne sur le bord de la porte, là, il y a à peu près 400 véhicules. Fait que je m'en vais te porter ça, moi, dans le fond, à l'autre bout. Il est toujours à la même place. Ce qui fait que ces petites affaires-là qui me laissaient présager que, oh, il semble que j'ai beaucoup d'oubli.
C'est à ça de les régler.
Ouais, j'oublie pas qui est ma blonde.
Heureusement. Mais, souhaite pas ça.
Mais ça a réglé ça.
Ouais.
Parce que si elle est dans ma maison, ça veut dire que c'est ma blonde.
Oui.
Tu comprends?
Tu fais l'association facile.
Je la laisse toujours à la même place.
Tu restes sur le divan, à droite.
C'est ça.
Oh, Seigneur.
Mais c'est des petits trucs comme ça qu'on se donne. Là.
Parce que non, moi, t'as raison.
J'ai pas d'Alzheimer, mais je suis extrêmement distrait. Si je suis en train de penser à quelque chose, puis quelqu'un me parle, oublie ça. C'est juste, j'entends... Ce que j'entends dans mes oreilles de cette personne-là, c'est...
Tu sais que ça paraît, hein?
Puis là, tu dis, « Hey, tu m'entends-tu? » »« Oui, oui, j'entends. » Puis là, je continue à faire mes affaires. Puis après ça, je suis tout à toi.
Oui, ça paraît.
Yes, oui, tout à toi.
Ça se sent.
11h10. Tu sens ça?
Ben oui, ça se sent.
Ah, ouais.
Toi, là, c'est facile de savoir quand tu viens de perdre l'attention ou quand tu penses à autre chose.
Comment ça?
Tout te paraît en face.
C'est écrit comment?
C'est vraiment facile. Ben, moi, je te dirais, c'est dans tes yeux, là, mais moi, je le sais quand tu m'écoutes plus. Je pourrais me mettre à dire, oui, tu sais, la girafe en Afrique, là, belle date qu'elle a faite avec l'éléphant, tu t'en rendrais même pas compte.
Hein?
Oh, ouais, pause.
Pause. Rebelle.